10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, c'est l'islam au présent. On a une heure pour parler d'islam tous les samedis sur Beurre FM entre 10h et 11h. En présence de l'imam Abdelali Mamoun, ravi de vous retrouver, imam Abdelali. Comment allez-vous?
Alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toi et à toutes celles et ceux qui nous écoutent tous les jours sur Beurre FM. J'espère qu'ils restent fidèles à cette belle radio.
Enfin, tous les jours, on n'est plus tous les jours, imam.
Non, mais ils nous écoutent, je parle de la radio.
Je parle d'écouter la radio, pas simplement mon émission.
Oui. Voilà, écoutez Beurre FM, voilà, c'est notre radio, c'est notre famille. Donc on reste sur Beurre FM pour rester en famille. Oui, effectivement, samedi matin, c'est avec l'imam, c'est parler religion, c'est parler de l'islam au présent. C'est d'essayer de concilier spiritualité et citoyenneté. C'est l'objectif de tout ce que nous faisons depuis plusieurs années ensemble, Philippe, toi et moi.
Alors, on va
parler... Et on n'est pas prêt de divorcer. Ouais, parce que...
Là, on appelle ça un grand moment.
Non, c'est une transition
solitude,
par rapport...
Un GMS.
Attends, mais non, c'est en rapport avec le sujet d'aujourd'hui.
Oh, et quel métier, vous avez du métier quand même, 25 ans de radio.
Non, parce que c'est un sujet grave,
mais qui vous est inspiré aussi par votre pratique quotidienne, puisque vous recevez énormément d'appels de couples, de gens qui vous appellent parce que justement, ils sont concernés par cette situation de divorce. Alors c'est vrai que l'imam est un référent, mais en termes de divorce, il y a aussi, moi j'ai mangé la semaine dernière justement avec Ali Habibi, vous voyez, il y a des gens sur le terrain qui sont aussi des conseillers de couple et qui peuvent intervenir avant que ça aille trop mal, hein, il faut le dire.
Oui, c'est très bien, c'est ce que moi je conseille à tous ceux et toutes celles qui ont des difficultés, qui n'arrivent pas à gérer entre eux, c'est de faire appel à un spécialiste. Et il faut pas sous-estimer les compétences de ces spécialistes qui arrivent à réconcilier des couples qui se sont laissés emporter par les tourments démoniaques, par les souffleries diaboliques. Et souvent ils le regrettent. Souvent il y a des profonds regrets. C'est seulement après que on ait pris les mauvaises décisions irrévocables qui deviennent irréversibles que l'on finalement se dit mais pourquoi j'en suis arrivé là, etc. Pourquoi on est arrivé au divorce? Alors que justement, c'est, je rappelle quelque chose qui est le plus détesté par Allah subhanahu wa ta'ala et bien sûr l'acte le plus aimé par le diable, par le shaitan, par Iblis, la'anatullah et allez. Voilà.
Alors c'est un vrai sujet de société, hein, puisqu'aujourd'hui c'est presque 50% des couples mariés
qui divorcent.
Alors déjà d'un point de vue... islamique, imam Abdelali, quelle est la différence et quelle est la différence que vous faites, vous, entre le divorce et ce qu'on appelle le talaq?
Talaq, voilà, il faut dire qa, c'est un qa à la fin.
Qa.
Alors ce qa là de talaq est une procédure religieuse, alors que le divorce est une procédure civile. Voilà, il faut bien faire le distinguo. Elles sont totalement dissociées. Jusqu'à maintenant, le conservatisme musulman se donne le droit de distinguer les deux. Et dit que si on est divorcé civilement, on ne l'est pas forcément religieusement. Comme inversement, on peut être divorcé religieusement et pas civilement. Donc c'est toute une réalité complexe que souvent l'imam se retrouve en porte-à-faux avec des réalités parfois très compliquées à gérer, dans lequel il est obligé de prendre tout un ensemble de paramètres liés à l'éthique, à l'esprit des règles religieuses en matière de talaq et qui sont bien entendu intimement liés au mariage civil et au divorce civil bien sûr.
Quelle est la différence?
Le divorce il peut émaner de l'un de l'autre ou des deux conjoint, c'est-à-dire soit la femme, soit le mari, soit les deux peuvent aller, ce qu'on appelle, présenter une requête au tribunal pour demander de divorcer de son conjoint, de son partenaire. Alors ça peut être pour faute, ça peut être aussi pour séparation supérieure à 2 ans, c'est-à-dire qu'ils se sont séparés de plus de 2 ans et l'un ou l'autre prouve effectivement qu'ils sont bien séparés de 2 ans et c'est ce qui va donc justifier auprès du tribunal des affaires familiales, ce qu'on appelle le juge aux affaires familiales, qui va traiter ce genre de dossier et donc confirmer le divorce. Il y a aussi le divorce avec consentement mutuel, où est-ce que les deux sont d'accord pour divorcer. Donc ensemble, ils vont devant un notaire. Ils apportent deux avocats. Bon, en général, il y en a un seul qui fait le travail d'écriture, etc., et qui valide. L'autre va valider simplement ce qu'a fait le premier. Mais en tout cas, c'est chez le notaire que ça se passe quand c'est avec un consentement mutuel. Justement, cette réalité-là est récente. Elle a 2-3 ans, je sais pas combien d'années là.
Oui, il y a la réforme du divorce pour accélérer les choses.
Pour accélérer les divorces avec consentement mutuel, pour qu'on puisse pouvoir refaire sa vie quand on est d'accord sur tous les points. Donc, bien sûr, faut être d'accord sur tout, sur la garde des enfants, sur la pension, sur tout ça. Donc, par contre, dans le divorce religieux, il n'est pas mentionné toutes ces règles-là. Tout simplement parce que l'islam sépare la procédure de séparation religieuse, de talaq, de toutes les obligations qui incombent. C'est-à-dire que, d'abord, le mari va répudier sa femme. On va prononcer un talaq.
Ça veut dire quoi? Parce que la définition précise.
Alors, c'est une déclaration dans laquelle le mari dit à sa femme devant témoin, de préférence, eh bien, tu n'es plus ma femme, je te répudie, on n'est plus mariés. En arabe, on dit anti talaq ou bien mutallaqa. Anti mutallaqa ou talaq. On n'a pas besoin de dire talaqa, c'est le A à la fin, Philippe, ça veut dire féminin. Tu te rappelles Rachid, Rachida, Karim, Karima, Salim, Salima, etc. Tu vois ce que je veux dire? Alors, taliq, taliqa, on n'a pas besoin de dire taliqa. Tout simplement parce que celui qui est taliq est forcément une femme, parce qu'il n'y a que l'homme qui peut prononcer le talaq envers sa femme.
Une femme ne peut pas dire à son mari tu n'es plus mon mari.
Tu n'es plus. Ouais, elle peut demander.
Même si une femme peut divorcer en islam.
Elle peut divorcer. Elle peut demander le divorce auprès des autorités religieuses, demander d'annuler son mariage pour une raison, ou même sans raison, tout simplement. Elle réclame ce qu'on appelle un khulu, une annulation de mariage, par restitution de la dot.
Ouais.
Ça s'appelle un khulu. Et elle peut tout simplement demander l'annulation du mariage pour un vice de forme, un vice que le mari avait caché, etc. Ou tout simplement une mésentente, ou tout simplement parce qu'elle ne l'aime plus. Elle est en droit, humainement, de dire voilà, moi je ne supporte plus de vivre avec cet homme, avec qui je trouve beaucoup, il y a beaucoup trop de différends, je suis pas heureuse avec lui. Donc elle va en discuter avec lui pour lui demander qu'il la répudie. Et si le mari persiste et dit non, moi je veux pas, à ce moment-là, elle est en droit d'en référer à une autorité religieuse pour lui réclamer, pour l'aider. C'est ce qu'avait fait une cousine du prophète qui s'appelle Zainab bint Jahsh quand elle a voulu se séparer de son mari Zayd ibn Haritha. Et ce fameux Zayd est le seul compagnon cité dans le Coran dans le cadre de son divorce avec Zainab. C'est justement dans le cadre de la sourate les coalisés, sourate 33, Dieu dit dans le Coran فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. Quand Zayd a parachevé sa période de viduité avec sa femme Zainab, Dieu a décrété qu'il la marierait avec le prophète. C'est-à-dire c'est sa cousine Zainab bint Jahsh, sa cousine maternelle, bint Amto, avec qui le prophète se mariera ensuite après son divorce, après qu'elle ait divorcé de son mari Zayd ibn Haritha, qui je rappelle était l'un des plus proches compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui mourra justement quelques mois plus tard lors de la bataille de Mu'tah.
Mais là, pourquoi techniquement, si une femme peut demander le divorce, pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas demander un talaq?
Elle ne peut pas demander talaq parce qu'on considère qu'une déclaration peut souvent se laisser embarquer par des émotions. Et on pense que la femme, généralement, a une réaction émotionnelle beaucoup plus forte que celle des hommes. Ce n'est pas un rabaissement, c'est une réalité.
Non, moi, c'est juste,
je suis pas en train de rabaisser
la raison religieuse.
La raison, c'est que l'homme, dans sa nature, va peut-être plus facilement se contrôler à ne pas répudier sa femme sous le coup de la colère ou sous le coup des émotions. Alors qu'une femme, facilement, et souvent des femmes m'appellent et disent « Ouais, mais j'ai répudié mon mari, j'ai dit « Tu n'es plus mon mari ». Je dis « Et alors ?» On s'en fout. Tout ce que tu diras, de toute façon, ça n'aura aucune importance. Il faut que ce soit ton mari qui dit « Antit talaq ». Le talaq se fait par le mari à sa femme ou par une autorité religieuse qui va défendre les intérêts de la femme et dire voilà madame pourquoi vous voulez divorcer, ben voilà mon mari
Mais moi ce que je cherchais c'était l'argument religieux, hein, pas l'argument émotionnel. Imam Abdelali, est-ce qu'il y a un argument religieux qui fait que la femme ne peut pas le prononcer?
C'est simplement les textes. On dit que comme c'est le mari qui a versé la dot, qui a assumé l'intégralité des besoins de sa femme et assumé l'intégralité du mariage, c'est à lui de l'annuler, c'est-à-dire de se désister de tout ce qu'il a dépensé. Si la femme veut avoir ce droit de répudier son mari, il faut qu'elle restitue la dot. Hein, c'est ce qu'on appellera à ce moment-là un khola qui veut dire la demande de divorce par la femme.
Ah, moi j'aimerais bien savoir, Imam Abdelaziz, ce que dit précisément la sourate qui porte ce nom d'ailleurs.
Oui, sourate al-talaq débute par justement une injonction divine faite à son prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit « Ô prophète, quand vous répudiez les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite. » C'est ce qu'on appelle la fameuse « idda », la période de viduité dans lequel le mari... au moment où il va répudier sa femme, il va conserver sa femme chez lui et va respecter cette période de viduité. À quoi sert-elle cette période de viduité? Elle sert à deux choses. Elle sert d'abord à permettre aux deux conjoints peut-être de se réconcilier, hein, puisque ouais. Dieu dans le Coran il le dit. Hein. Tu ne sais pas si d'ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau. Juste à la fin de ce premier verset, la'allah yuhdithu ba'da dhalika amra. La première raison, c'est cela. La deuxième raison, c'est pour s'assurer que si la femme, après, est demandée en mariage par un autre homme, elle ait bien été, on va dire, il y a eu un discernement entre l'éventualité d'une semence faite par le premier mari et le nouveau prétendant au mariage. C'est une manière de distinguer la semence et la filiation d'une éventualité du fait qu'elle soit enceinte ou non. Donc, trois règles, trois cycles menstruels vont provoquer cette assurance, cette sécurité que cette femme-là n'est pas enceinte de son premier mari. Ensuite, comme elle est libre de son ventre et on est sûr qu'elle n'est pas enceinte, à ce moment-là, elle va pouvoir proposer pour être prétendante à un mariage avec un autre homme. Par contre, la question qui se pose, c'est si le mari la répudie alors qu'elle est enceinte. Eh bien, à ce moment-là, on dira que toute la période de viduité correspond à la période de gestation, c'est-à-dire la période où est-ce qu'elle est enceinte jusqu'à qu'elle accouche. C'est-à-dire que si elle vient de tomber enceinte, eh bien sa période va durer 9 mois, jusqu'à qu'elle accouche. De la même manière que s'il la répudie juste un peu avant qu'elle accouche, dès le lendemain de son accouchement, cette femme-là est libre, elle peut se remarier. Donc c'est l'accouchement qui va libérer cette femme de ce premier homme, de son mari, donc du père de cet enfant, et donc de lui permettre de se marier avec un autre homme. Lui, par contre, lui peut se marier quand il veut avec n'importe quelle femme.
Alors la suite de la sourate.
Ah voilà. Donc qu'est-ce qu'il dit Et craignez Allah, votre Seigneur. Ne les faites pas sortir de leur maison et qu'elles n'en sortent pas, à moins qu'elles n'aient commis une turpitude prouvée. C'est-à-dire que là, pendant la période de viduité, ils ne se séparent pas. Ils doivent rester tous les deux dans le foyer conjugal. Telles sont les lois d'Allah. Quiconque cependant transgresse les lois d'Allah se fait du tort à lui-même. Tu ne sais pas si d'ici là Allah ne suscitera pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que voilà, Dieu veut à travers cela donner une chance, forcer un peu le couple peut-être à trouver un terrain d'entente pour se réconcilier et que la femme utilise de son charme pour essayer de faire annuler cette première répudiation. Puisque attention, en islam il est dit que les divorces révocables sont du nombre de deux. C'est-à-dire, il y a deux, at-talaq ou marratan. At-talaq raj'i marratan. Deux fois, tu peux récupérer ta femme. Mais si, après la deuxième, c'est-à-dire la troisième fois, tu répudies ta femme, eh bien, il devient ce divorce irrévocable majeur. Qu'est-ce que ça veut dire majeur? C'est-à-dire, c'est le contraire de mineur. Tu vas me dire, mais c'est quoi mineur, c'est quoi majeur? Eh bien, c'est la chose suivante. Si mon mari me répudie une première fois, d'accord, et que on laisse passer la période de viduité sans qu'on se réconcilie, à ce moment-là, je suis plus son mari. La femme est séparée de son mari. Ils sont plus mari et femme. Mais là, c'est ce qu'on appelle un divorce irrévocable mineur. C'est-à-dire qu'il leur est possible de se remarier. Ils peuvent se remarier immédiatement. Tout de suite, ils décident d'aller voir un imam.
Ils peuvent se remarier.
Le tuteur légal, la dot, etc. Il faut un nouveau mariage avec tout ce qu'il y a comme règles et conditions du mariage religieux. Donc, ils peuvent se remarier directement. C'est ce qu'on appelle un divorce irrévocable mineur. Par contre, si il l'a répudié 3 fois, à 3 moments séparés, donc dans 3 endroits différents et des moments différents. Attention, parce que si un homme dit à sa femme, sur le même moment, tu es répudié, un tétal, 3 fois.
Ça compte pour une fois.
Voilà, ça comptera pour une fois. Ouais. Même s'il y a divergence entre les savants sur cette question, nous prenons l'avis le plus souple qui permet au couple de se réconcilier. Mmh. Et c'était la référence de notre prophète bien-aimé, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait été abrogé et modifié par le calife Omar. C'est Omar qui a rendu 3-1, 3-3, c'est-à-dire les 3 considérés comme 3, comme irrévocables majeurs. Alors, tu vas me dire, c'est quoi majeur?
Donc, en fait, si j'ai bien compris, Mme Abdelali, donc, ce que vous distinguez, c'est trois moments différents.
Voilà, trois moments différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il dit à sa femme, anti talaq. Le lendemain, il lui dit anti talaq. Et le surlendemain, il lui dit encore anti talaq. Ou bien le matin, il lui dit, passe un long délai. Et le soir, il lui redit une deuxième fois. Ça comptera deux. Et ensuite, à la troisième fois, ça c'est fini. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, c'est fini? Ça veut dire que c'est irrévocable majeur. Ils ne peuvent avoir l'éventualité de se remettre ensemble par un mariage religieux que seulement si elle, écoute bien, se remarie avec un autre. D'abord, passe le délai de viduité de 3 mois, qu'ensuite un mari vienne la demander en mariage, qu'elle se marie avec lui, qu'elle consomme son mariage avec cet homme, ensuite qu'il la répudie, qu'il consomme, c'est-à-dire qu'ils aient des relations intimes, c'est-à-dire des relations maritales.
J'ai compris.
Ma ouais, voilà, mais parce que tu n'aimes pas que j'utilise ce mot-là.
J'aime pas
le mot. Tu veux que je dise des mots vulgaires.
J'aime pas
utiliser les mots vulgaires. Tu sais très bien, Philippe. On est dans une assise respectueuse. Il y a des gens qui nous écoutent. On fait attention à ce qu'on dit. Donc il faut qu'ils consomment leur mariage. Ensuite, ils la répudient. Il faut pas que leur intention de leur mariage avec le second ne soit pas avec l'idée de vouloir se remarier avec le premier. Parce que des fois, il y a des femmes, elles sont tellement amoureuses de leur premier mariage qu'elles vont faire, par exemple, des plans. Ouais, je vais aller me remarier avec un mec, mais avec l'intention de divorcer pour pouvoir me remarier. Si c'est cette intention-là est là, eh bien, ça ne compte pas. C'est caduque. C'est-à-dire que même si elle se remarie avec un autre homme, elle pourra toujours pas se remarier avec son premier mari. Il faut que son intention d'un deuxième mariage soit sincère. Et c'est ce qu'on appelle, et qu'il soit définitif.
Bon, je sens que votre gorge, Imam Abdelali, a besoin
d'un peu de
consommation.
Ouais,
on va aller à la machine à café, vous allez boire un petit café, ça va vous remettre, vous adoucir la gorge.
Parce qu'on n'a pas encore expliqué ce que c'était que le divorce irrévocable majeur.
On fera ça après la pub. Et puis si vous avez des questions à poser sur le divorce, vous nous appelez au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. C'est l'islam au présent jusqu'à 11h sur Beurre FM.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h-11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, et on parle du divorce en islam. Ce matin, je rappelle que vous pourrez poser toutes vos questions sur le divorce, bien sûr. On va rester sur la thématique ce matin. À l'imam Abdelali en direct au 01 53 48 3000. Alors, on n'a pas vu ce que c'était que le divorce majeur, imam Abdelali.
Oui, non, c'est en fin de compte, si on l'a vu, mais bon, on n'avait pas fait attention de l'appeler le divorce irrévocable majeur. C'est celui qu'on vient de citer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un homme a répudié à 3 reprises, à 3 moments séparés sa femme, ça devient irrévocable majeur. Il ne peut avoir l'éventualité de se remarier avec elle que seulement si elle se remarie avec un autre homme, qu'elle consomme, qu'elle divorce, et ensuite elle peut éventuellement venir recevoir la candidature de son premier mari.
Alors, dans le cas du mariage, Imam Abdelali, vous conseillez, comme les autorités françaises, de procéder au mariage religieux après le mariage civil.
Ouais, c'est pas simplement recommandé, c'est obligatoire.
Bon, d'accord, on est d'accord.
Alors, je rappelle la loi, l'article 433-21 du Code pénal condamne à 6 mois de prison et 7 500 euros d'amende, et jusqu'à 7 500 euros d'amende, c'est pas forcément, c'est le maximum, quoi. Tout ministre du culte qui exercerait de manière habituelle des mariages religieux avant l'enregistrement dans l'état civil, c'est-à-dire avant le mariage civil.
Donc ça, c'est pour le mariage. Donc maintenant, pour ce qui concerne le divorce, je voulais savoir si effectivement c'était la même chose.
Non. Un homme, il peut répudier sa femme, mais civilement, il restera marié, c'est tout. Civilement, il pourra rester marié. Ou inversement, il pourra se divorcer civilement et puis décider de rester avec sa femme. Et il y en a, ça arrive, pour des raisons d'ordre fiscal ou je ne sais quoi, il décide ou bien parce qu'il veut se remettre avec une deuxième femme. Alors il se met d'accord avec elle, avec la première, pour rester avec elle mariée religieusement et divorcer civilement pour pouvoir, je ne sais pas si c'est illégal de faire ça.
La loi française réprime la polygamie.
Oui, mais la polygamie inscrite à l'état civil. Oui. Attention.
D'accord.
On a eu une affaire il y a quelques années d'un gars de la Bretagne, ou je sais quoi, de Nantes, qui avait une femme et 3 maîtresses. Donc la loi n'a pas pu le poursuivre parce qu'il n'avait pas enregistré, même si dans les médias on n'arrêtait pas de dire que cet homme était polygame, il avait 4 femmes, mais finalement lui il a dit non, je suis pas marié avec les 4 femmes, je suis marié qu'une femme et les 3 autres sont mes maîtresses. Ce qui est souvent le cas dans beaucoup de cas chez même les non-musulmans qui ont une femme légitime et parfois plusieurs femmes illégitimes, des maîtresses, comme on appelle ça. Donc c'est un peu le cas, sauf que lui, il les a officialisées. Il les a déclarées religieusement, mais il les a pas déclarées civilement. Par contre, si les autorités françaises apprennent le nom de l'imam qui a marié cet homme religieusement 3 fois après son mariage d'une première femme, ben il est passible de 6 mois de prison et de 7500 euros d'amende. Ce n'est pas le couple qui est sous le coup de la loi quand il y a polygamie ou mariage religieux avant le mariage civil, c'est l'imam, c'est-à-dire le ministre du culte. Et ce n'est pas une loi réservée à l'islam, parce que là, ça serait discriminatoire. C'est une loi globale, c'est-à-dire même chez les chrétiens, comme chez les juifs, le rabbin, le pasteur, le curé, peu importe.
C'est le ministre du culte. Ouais.
Voilà. Il n'a pas le droit de marier religieusement si le couple ne se présente pas avec un livret de famille inscrit à l'état civil. Voilà. Donc, ça c'est important de préciser. Mais pour le divorce, il arrive des fois que un couple qui est toujours marié civilement et qui avait divorcé religieusement souhaite se remarier religieusement. Est-ce que moi j'ai le droit légalement comme religieusement de les remarier? Oui, la réponse est oui. Je peux les remarier si le divorce n'est pas irrévocable majeur. Si c'est mineur, je les remarie. Et pourquoi civilement je peux les remarier? Parce qu'ils ont toujours leur livret de famille et d'état civil. Ils sont toujours mariés civilement. Donc ça arrive parfois que je remarie des gens qui sont mariés civilement mais qui avaient divorcé religieusement.
Mais si cette personne donc est divorcée religieusement mais pas civilement et qu'elle veut se marier religieusement avec une autre personne, dans ces cas-là, c'est pas possible.
Religieusement, si. Religieusement, d'un point de vue purement religieux, il a le droit puisque elle n'est plus sous sa dhimma, ce qu'on appelle la dhimma, c'est-à-dire son autorité et son obligation de prise en charge. Elle est totalement séparée de lui, ils vivent pas sous le même toit, ils sont séparés depuis longtemps, ils n'ont pas obtenu encore leur divorce civil. Au contraire, beaucoup de femmes se remarient avant la fin du mariage du divorce civil. Pourquoi? Parce que les procédures sont parfois trop longues. Des fois, ça dure 3-4 ans, même plus des fois. Tout simplement parce qu'il y a une maison, parce qu'il y a des enfants, parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, parce que lui est en voyage, parce qu'il n'arrive pas à assister, il ne vient pas aux audiences, etc. Donc, les tribunaux font traîner les choses, et la femme, elle en a marre, et elle veut pouvoir vivre avec un homme. Donc, à ce moment-là, elle va religieusement se remarier, puisque elle a été répudiée par son mari depuis très longtemps, et elle se dit, mais pourquoi moi je pourrais pas vivre avec un homme? Et c'est injuste de la laisser comme ça, sous prétexte que civilement elle est toujours pas divorcée, elle n'aurait pas le droit de refaire sa vie, alors que lui peut, lui s'en fout, parce que même s'il est pas divorcé, il a le droit religieusement de se remarier avec une deuxième ou une troisième. Alors que elle n'aurait pas le droit parce qu'elle est toujours mariée civilement. Non, elle est divorcée religieusement. Donc à partir de là, elle peut se remarier religieusement. Sauf qu'attention, comme ils ne sont pas, cet homme, nouvel homme, avec cette femme-là, mariée, civilement, il est lui l'imam sous le coup de la loi. Mais tu vas me dire, on peut très bien éventuellement aller se marier ailleurs, dans un pays où cette règle-là ne s'applique pas, dans un pays arabe par exemple, je sais pas moi, ou dans un pays limitrophe ou d'Europe, où est-ce que la loi, cette loi-là de l'article 433-21 du code pénal n'existe pas. Donc c'est vrai qu'il y a la loi qui vient interdire le mariage religieux avant le mariage civil, mais peut-être dans d'autres pays ça n'est pas interdit. Donc ils seront finalement mariés religieusement par un imam à l'étranger, et puis venir vivre ensemble comme mari et femme, alors qu'elle est toujours civilement mariée avec son premier mari. Et que ça traîne, parce que ça traîne l'aralb. On peut pas là encore. Tu vois, je t'ai dit, c'est compliqué le divorce religieux par rapport au divorce civil. Il y a des scénarios extrêmement complexes. J'en ai un justement que j'ai soulevé parmi les questions que je t'avais envoyées tout à l'heure, hein, parce que c'était pas hier. C'est toujours à la dernière minute que je t'envoie les questions. Une dame dit, voilà, moi, je suis toujours mariée civilement, et je suis en procédure de divorce, et je souhaite me remarier avec un autre homme. Sauf que j'ai réclamé une pension alimentaire. La pension alimentaire, je rappelle que chez nous, ça n'existe pas. D'abord, ça n'existe pas que seulement pendant les 3 mois de viduité, la période où la femme reste chez son mari, elle est prise en charge matériellement par son mari. Même si, on va dire, affectueusement, elle n'est pas prise en charge puisqu'ils sont divorcés, il l'a répudiée et que lui ne souhaite pas se réconcilier, mais qu'il est obligé pendant ces 3 mois de la garder à la maison, de l'entretenir à la maison, et qu'à terme de ces 3 mois, là, elle quitte le domicile. Et c'est le cas, elle a quitté le domicile, et là, après avoir quitté le domicile, elle vient, elle dit, je réclame une pension. Pas pour les enfants, il n'y a pas d'enfants, juste pour elle. Elle dit, moi, je veux une pension pour moi. C'est-à-dire, elle veut, comme on dit en français, bouffer à tous les râteliers. Elle veut être entretenue par son ex-mari et être entretenue par son nouveau mari. Là, je dis non, stop, c'est pas possible. soit vous êtes le mari, l'épouse de votre premier mari, donc vous ne pouvez pas vous remarier, et c'est votre premier mari qui vous entretient grâce à cette pension, ou soit c'est le nouveau mari, et là, à ce moment-là, vous oubliez votre premier mari. Hein, vous l'oubliez, vous tournez la page et vous laissez tranquille. Vous n'allez pas lui réclamer de pension, etc. Parce que vice-versa, ça peut se faire. Ça pourrait être le mari qui va réclamer une pension à sa femme parce que c'est elle qui travaille et qu'elle qui touche des gros salaires. Attention, hein, la loi, elle est réciproque. Hein. Si c'est madame qui travaille, qui touche un gros salaire, alors elle aimerait pas que son ex-mari vienne lui réclamer une pension. Alors que la loi le prévoit. Elle pourrait réclamer une prestation compensatoire, une pension, etc. Nous, en islam, on dit non, stop, cet argent n'est pas halal. Il n'est pas licite, il n'est pas permis, puisque une femme, si elle est divorcée, je vois pas pourquoi elle viendrait réclamer, sur quelle base morale elle réclamerait de son premier mari une pension alimentaire. Ça y est, t'es libre, tu repars chez tes parents, tu peux te remarier, remarie-toi, puis voilà, ou travaille, ou prends soin de toi. Mais pourquoi, à quel titre tu viendrais réclamer de l'argent à ton premier mari, ou le mari viendrait réclamer de l'argent à sa femme?
Vous savez qu'Imam Abdelali, il existe des femmes qui ont contribué à la réussite de leur mari.
Et vice-versa.
Là, vous parlez des femmes.
Mais c'est une supposition, là. On parle d'une supposition. En général, le mari se marie parce qu'il a déjà réussi.
Madame Bezos, par exemple, elle a contribué quand même à la réussite de son mari. Donc,
alors, à ce moment-là, on va pas appeler ça une pension. Pour moi, ça doit pas s'appeler une pension. Ça doit s'appeler une rétribution sur, tout simplement, le capital que monsieur a gagné, c'est grâce à elle qu'elle l'a gagné, et elle va aller dans les tribunaux pour réclamer que c'est aussi grâce à elle que son mari a gagné de l'argent. Donc elle va réclamer son dû, et non pas une pension. On n'appellera pas ça une pension. Oui. Je ne sais pas quel mot il faut utiliser.
On joue sur les mots, mais en fait...
Non, c'est une différence entre demander une pension mensuelle, ou est-ce qu'on demande tous les mois une somme de manière in vitam aeternam, sans limite, ou je ne sais pendant combien d'années, alors que là, non, monsieur a gagné tant de millions, tant de milliards depuis qu'on est marié, je réclame la moitié. C'est mon droit. Réclamer, puis en réprime, je m'en vais. Parce que c'est le capital qu'on a gagné ensemble. Je veux bien te l'accorder, celle-là. Mais à ce moment-là, elle va dans les tribunaux pour réclamer ça. Surtout si tout cet argent-là est dans le compte de monsieur. Alors qu'il aurait été idéal, c'est qu'il fasse un compte commun. Et s'il y avait eu le compte commun, là, il n'y aurait même pas besoin de tribunaux. La juge aux affaires familiales aurait tout simplement partagé l'argent du compte commun et l'aurait donné à moitié à chacun. Voilà, ça, c'est dans les règles en général. Donc c'est vrai que c'est compliqué, Philippe. Le divorce est une procédure à la fois émotionnellement très complexe et civilement très complexe, et même religieusement. Donc il faut savoir gérer avec beaucoup de minutie et de sagesse.
Une période qui ne révèle pas toujours le meilleur des personnes qui se sont tellement aimées.
Et souvent, je crois même, ce qui peut arriver dans la vie d'un être humain, un homme ou une femme, qui est le plus pénible dans sa vie. Je crois même que c'est plus douloureux qu'un décès. Un décès, on dit, c'est la fatalité. Allah, il a décidé qu'un tel meurt, ton père, ta mère, ton frère, ou je sais pas qui, il meurt, c'est une fatalité, t'y es pour rien. Sauf qu'un divorce, souvent, on a des remords, on se fait des reproches. On se dit pourquoi ou à quel moment j'ai raté le coup. Et on se pose plein de questions. On se dit c'est de notre faute et on a énormément du mal à cicatriser un divorce émotionnellement.
Est-ce que vous pouvez, Imam Abdelali, nous rappeler la vraie formule pour le divorce? Qu'est-ce qu'on doit prononcer?
Eh ben, il doit dire à sa femme, de préférence devant un témoin.
Ah, il faut un témoin.
Deux témoins. Ouais. Il lui dit anti talaq. Et il faut attention que ça soit. Il faut pas que ça soit dans une période où elle est en règle pendant sa période de menstrue. Il faut pas qu'elle soit indisposée. Et il faut pas que pendant que la période où elle n'est pas. Il faut pas qu'il y ait eu des rapports entre le moment où elle a été disposée, c'est-à-dire qu'elle n'était plus indisposée, et le moment où est-ce qu'il l'a répudie, il faut pas qu'il ait consommé. Il faut pas aussi... attends, il y a quoi d'autre? Bon, bref, c'est ce qu'on appelle le talaq bid'i. Un talaq bid'i, il y en a qui disent, ouais, mais le talaq bid'i, il est pas valable, etc. La grande majorité des savants, j'ai dit bien grande majorité écrasante, considère que le talaq bid'i, c'est-à-dire c'est de ce talaq inconvenable, voilà, il est inconvenable, eh bien, n'est pas valable. Eh bien, la grande majorité disent qu'il est valable. Et une petite minorité, dont Ibn Taymiyyah, par exemple, considère que le talaq bid'i, lui, n'est pas valable. Mais nous pensons que si, il est valable. Il est interdit, il est muharram, il est illicite. On n'a pas le droit de répudier sa femme quand elle est dans sa période de menstrue, ou avoir consommé après les menstrues une relation qui a été suivie d'un divorce. Donc il faut pas qu'il y ait eu entre les menstrues et le moment où tu prononces le talaq, eh bien une relation intime. C'est à ce moment-là un talaq sunni, c'est un talaq conforme à la tradition prophétique. Alors que le premier, lui, est inconvenable et non conforme à la tradition prophétique, ce qu'on appelle talaq bid'i. Donc il faut savoir que c'est un péché, mais que malgré tout, un talaq bid'i est valable. Il est effectif. Hein, attention, je dis ça pourquoi ? Parce que beaucoup de nos auditeurs et nos auditrices ne savent pas que un divorce, même qu'on prononce pour s'amuser, est quand même effectif. Le prophète dit dans un hadith, talathun jidduhun najid wa hazluhun najid. Trois choses. Quand on est sérieux, c'est sérieux, et quand on s'amuse, c'est quand même sérieux. C'est quoi ? C'est l'affranchissement d'un esclave. Bon, à l'époque du prophète, il y avait des esclaves. Donc quand tu as affranchi, même pour plaisanter un esclave, ben, il est affranchi, effectivement. Le mariage, tu dis à quelqu'un, ben, je te donne ma fille en mariage. Ah oh, ben non, je m'amusais, je rigolais. Eh ben, elle est mariée avec lui. Si lui a dit d'accord et que la fille est consentante, à ce moment-là, le mariage est effectif. Mais aussi le divorce, si quelqu'un dit à sa femme pour s'amuser, anti talaq, eh bien, il est effectif, même si il plaisantait. On ne plaisante pas avec le divorce. Moi, je conseille toujours à nos auditeurs, auditrices et à tous les musulmans qui sont mariés, les musulmanes, musulmans surtout, les hommes, de ne jamais prononcer le talaq. Tu es énervé avec ta femme, tu te tais. Tu dis tout ce que tu veux, sauf que tu ne parles pas de talaq. Le talaq, t'en parteras quand tu auras quitté la maison, pris tes valises, entamé la procédure civile, ou voire même obtenu le divorce civil. Ouais. À ce moment-là, tu parles de talaq religieux. Mais tant que vous n'en êtes pas là, il vaut mieux éviter de parler de talaq. Et en plus, souvent, ça se fait, il n'y a pas de témoin. Attention, même un talaq sans témoin, il est quand même valable. Si monsieur reconnaît qu'il a bien prononcé le talaq à sa femme, eh bien, elle est quand même répudiée s'il n'y a pas de témoin. Les témoins ne sont pas une condition qui pour rendre effective le talaq. Donc attention, on se tait. Il vaut mieux se taire.
C'est pas une condition de validité.
Non. Ah non, il est quand même valable le divorce religieux quand un homme dit à sa femme un talaq alors qu'il n'y a pas de témoin.
D'accord, mais c'est recommandé.
Non, c'est pas simplement recommandé. C'est, par exemple, dans le cadre où monsieur nie, il dit non, moi je t'ai jamais répudié. La femme a dit si, tu m'as répudié. Non, je t'ai pas répudié. Si, alors prouve-le, donne-moi des témoins. Donc là, les témoins vont servir à prouver c'est-à-dire les accusations de madame que monsieur a bien répudié sa femme. Bon, ça sert à ça un témoin. C'est pour prouver, c'est une preuve.
On parle du divorce en islam ce matin. Vos questions au 01 53 48 3000. L'imam Abdelali Mamoun y répondra dans un instant. 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beur FM, 10h, 11h. L'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, et c'est l'islam au présent jusqu'à 11h. On parle du divorce en islam ce matin avec l'imam Abdelali Mamoun. On a une question de Louisa qui est avec nous. Louisa, bienvenue.
Bonjour.
Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba Norti Louisa, je vous écoute.
Alors, j'ai une question. Alors, j'ai une amie qui est séparée avec son mari. Elle souhaite divorcer pour des raisons personnelles. Et son mari ne veut pas divorcer avec elle. Et ça fait à peu près 6 mois qu'ils sont séparés. Et c'était pour savoir si...
Alors, est-ce qu'ils sont séparés sous le même toit, c'est-à-dire qu'ils font chambre à part, ou est-ce qu'ils sont séparés, ils habitent domiciliation?
Non, ils habitent séparément depuis peu, parce que voilà, il y avait ce délai de 3 mois qu'il fallait patienter.
Mais ouais, non, mais attendez, 3 mois, parce qu'il l'a répudié ou pas?
Non, il veut pas du tout.
Alors, ma sœur, ce que vous êtes en train de me dire, c'est, vous avez pas compris. La période de viduité ne peut se faire que seulement si monsieur a répudié sa femme. S'il n'y a pas eu cette période de viduité, cette répudiation, cette déclaration, la période de viduité ne peut pas débuter. Même si vous dites dans votre tête, vous avez l'intention de débuter dans votre tête, ben ça marche pas comme ça.
La séparation de corps, c'est autre chose encore.
Ah non, là on parle que madame est restée avec son mari 3 mois parce qu'elle avait l'intention de divorcer. Ça suffit pas d'avoir l'intention de divorcer de son mari, de rester avec lui 3 mois pour ensuite se séparer et dire que voilà, ma période de vie, madame qui décrète le début de la période de vie, c'est monsieur par une déclaration de divorce. Il doit dire à sa femme un titalaire et par cette formule-là débute la période de viduité. Comprenez ?
D'accord. Ça veut dire du coup que même si ça fait 6 mois qu'ils sont séparés.
Alors attendez. Ensuite, si madame a quitté le domicile ou monsieur a quitté le domicile, madame, de plus de 6 mois, à ce moment-là, on convoque l'imam, éventuellement, idéalement, c'est celui qui les a mariés. Sinon, n'importe quel imam. Il va à la mosquée de Paris, etc.
D'accord, et mais c'est monsieur qui a quitté le domicile. Du coup,
voilà, madame, madame, il faut qu'elle fournisse des preuves que monsieur ou monsieur reconnaît tout simplement. On l'appelle, on lui dit, est-ce que c'est vrai que vous avez bien quitté depuis 6 mois votre domicile conjugal? Et on lui demande pourquoi vous avez quitté le domicile. Et est-ce que, effectivement, depuis 6 mois, vous n'assumez plus rien? Par contre, il y a des maris qui quittent leur domicile, mais continuent à payer le loyer, les factures, etc. Donc là, par contre, madame ne peut pas justifier d'un divorce religieux alors que son mari continue à l'entretenir. Comprenez? Il faut qu'elle n'accepte plus que son mari l'entretienne pendant 6 mois. Il faudrait que lui dise, ça y est, moi, je te donne plus rien, t'es plus ma femme, etc. Et là, à ce moment-là, oui, elle entame une période de vidité de 3 mois. Et à ce moment-là, elle peut se remarier avec un autre homme. Mais tant que ils vivent sous le même toit, ou que même s'ils ne vivent pas sous le même toit, c'est monsieur qui continue à payer les factures, eh bien ça empêche madame d'être libre de se remarier, puisqu'elle est toujours sous la dhimma, c'est-à-dire l'entretien et une protection financière de son mari. Vous comprenez?
D'accord. Ok.
Voilà, il faut qu'elle dise voilà, parce que dans la loi française c'est 2 ans, hein, vous savez que c'est 2 ans, c'est ce qu'on appelle la séparation des corps.
Ça fait à peu près 6 mois qu'ils sont séparés. Elle a entamé le divorce civil.
Attendez madame, est-ce que vous appelez séparation? Est-ce qu'elle a quitté, il a quitté depuis 6 mois la maison, ou bien ils ne dorment plus ensemble depuis 6 mois?
Non, ça fait 6 mois qu'il a quitté la maison et qu'ils ne dorment plus ensemble.
D'accord. Et il ne paye pas de loyer, paye pas de facture, il ne donne rien.
Ça, je peux pas vous dire.
Écoutez, il faut avoir la réponse à cette question. S'il n'entretient plus sa femme depuis ces fameux 6 mois, eh bien, elle peut demander l'annulation de son mariage. Fasrez Zawaj. Elle demande l'annulation du mariage. Et elle, à ce moment-là, demande à l'imam d'appeler son mari. Le mari, s'il dit non, c'est pas vrai, j'habite toujours avec ma femme. Imaginons, il dit ça. Eh bien, madame devra fournir la preuve que son mari a bien quitté le domicile depuis 6 mois. C'est-à-dire qu'elle ramène, par exemple, 2 témoins de sa famille ou des voisins ou des voisines. Et il faut 2 témoins qui prouvent qu'effectivement, monsieur a bien quitté le domicile depuis 6 mois. D'accord?
D'accord. Ok.
Fournir des preuves, pour la preuve qui vont accabler monsieur. Non, monsieur, vous n'assumez plus votre femme depuis 6 mois, vous l'entretenez plus, vous la prenez pourquoi? C'est pas un manteau qu'on suspend dans une penderie. Hein, c'est ce qu'on appelle à ce moment-là une femme mu'allaqa. Mu'allaqa, ça veut dire suspendue. Elle est ni divorcée, ni mariée. Elle est ni avec son mari, elle est tout simplement séparée. Mais elle ne jouit pas du mariage et elle ne peut pas jouir d'un nouveau mariage. Elle reste suspendue. Donc là, on ne peut pas laisser faire ça. Les autorités religieuses sont en droit, l'imam par exemple, de faire annuler le mariage par des preuves, ou tout simplement par le mari avoue et reconnaît qu'il est bien séparé de sa femme depuis 6 mois. D'accord.
Ok. Je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie. Allah
Issa. Imam.
Merci, Louisa. Question de Kamel au 01 53 48 3000. Kamel, bonjour et bienvenue.
Bonjour, Philippe. Et salam alaykoum à tout le monde. Et
wa
alaykoum salam al Shir.
Merci,
Al-Shir. Oui, j'ai une question très particulière, en fait. Bon, de toute façon, je pense que toute question a une réponse. En fait, je suis en train de refaire ma vie. J'ai fait déjà une vie conjugale avec une personne. On s'est séparés. On n'était pas mariés, donc on s'est séparés. On était au halal, mais on s'est séparés normalement.
Donc vous étiez mariés religieusement?
Oui, c'est ça, tout à fait. Devant l'imam, quoi.
On bat talakta.
Oui, enfin, talakta, c'est quelque part. C'est elle qui est partie. Donc
vous étiez mariés. Ne dites pas que vous n'étiez pas mariés. Vous étiez mariés religieusement. Mais vous n'étiez pas marié civilement.
Quand je vous dis religieusement, juste je précise pour que vous puissiez comprendre la situation. On s'est marié devant l'imam qui nous a mariés, c'est tout. C'était une Française qui s'est convertie et on s'est marié de cette façon-là.
Oui, d'accord, j'ai compris. Donc c'est un mariage religieux, mais pas civil. J'ai compris. Et donc vous vous êtes séparés, maintenant vous êtes divorcés religieusement et tu souhaites te remarier ou tu t'es déjà remarié?
Alors non, pas du tout. Je me suis pas remarié. J'envisage de refaire ma vie avec quelqu'un que j'ai rencontré.
Oui.
Et malheureusement, en fait, il y a des règles, et ces règles-là, je ne les connais pas parfaitement, et c'est pour ça que je viens vers vous pour m'éclairer un peu sur... En fait, cette personne, elle est aussi de mon âge à peu près, donc elle a 2 enfants qui vivent avec elle.
Oui.
Moi, j'ai aussi 2 enfants qui vivent en alternance entre mère et
mère. Est-ce que je peux connaître l'âge approximatif de madame?
De madame que je connais maintenant?
Oui, la nouvelle.
60... 60... Non, 58 ans, pardon.
Oui, machallah. Donc, on peut dire, elle est plutôt monoposée, quoi. C'est une femme auquel vous ne pensez pas avec qui faire des enfants et construire un nouveau foyer. Une nouvelle famille.
Oui, oui.
D'accord.
Oui.
Mais avec qui vous voulez terminer votre vie?
Oui, avec qui, voilà, je commence un petit peu à, voilà, lier des liens.
D'accord. Ben, qu'est-ce qui vous empêche de vouloir vous remarier religieusement? Je ne vois pas la difficulté.
Alors, non, je vais vous poser ma question, parce qu'aujourd'hui, quand je lui ai posé la question, comment est-ce qu'on envisage de, d'éclairer tout ça dans le halal et de procéder dans la. Mm-hmm. Elle m'a dit oui. Il faut se renseigner parce que évidemment on voudrait quand même que les choses se passent.
Alors est-ce que cette femme-là, elle est bien elle-même divorcée de son ex-mari?
Alors oui, absolument, elle est divorcée complètement.
Depuis longtemps.
Oui, ça fait un petit moment qu'elle est divorcée, oui.
Eh ben alors mariez-vous, c'est tout. Il y a pas chercher. Faut pas compliquer les choses. Vous amenez un imam. Attention, je rappelle que le mariage religieux est interdit avant le mariage civil. Ça reste pour tous les âges. Il y a pas de l'âge à partir d'un certain âge, on peut se marier religieusement, même si c'est logiquement logique. C'est-à-dire que voilà, il y a plus de danger que on puisse léser un enfant éventuellement, puisque l'éventualité qu'elle tombe enceinte est extrêmement maigre. Donc moi personnellement ça m'arrive en tout cas d'encourager des couples à se marier religieusement sans forcément être mariés civilement, même si la règle c'est d'encourager de pousser les gens à se marier civilement. Mais si dans votre cas vous souhaitez vous marier religieusement, vous pouvez.
Alors justement, j'approfondis un tout petit peu mes chiffres, si vous permettez. Mmh. Alors aujourd'hui, notre démarche à nous, elle va être religieuse dans un premier temps.
Ouais.
Pouvoir au moins se voir, parler, après.
Et même consommer, attention. Même consommer et avoir une relation intime, mari et femme, entre conjoints.
Justement, là, vous appuyez sur le point le plus important. C'est aussi ça qui aboutira après. Mais dans un premier temps.
Mais pourquoi
temps,
après? À partir du moment où vous êtes marié religieusement, c'est immédiat. Vous avez le droit tout de suite.
D'accord.
Vous n'avez pas besoin d'attendre d'accord. après. Pourquoi
donc,
attendre après?
Cette étape que vous dites, parce que moi je comprends pas, j'avais trop sur.
C'est pour ça que je te dis qu'à partir du moment où on est marié religieusement, on a immédiatement deux choses, un droit et un devoir. Un droit de d'accord. consommer des relations oui. intimes et un devoir d'accord. d'assumer sa femme.
Bien sûr. Alors, le mariage religieusement que vous êtes en train de stipuler, il se passe comment?
Comme vous l'avez fait avec la française, comme vous étiez la première fois, une fatiha, d'accord. vous faites venir c'est un aqd charaï, un acte religieux, vous faites venir deux témoins, le tuteur légal de votre prétendante, par exemple son frère, son frère ou ses parents s'ils sont encore vivants, et saint d'esprit. Il faut qu'une personne saine d'esprit vienne et marie sa fille ou sa sœur. À vous, c'est, il vous la donne en mariage, je te donne la main de ma fille moyennant une dot de temps conformément au précepte du Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et toi tu dois dire j'accepte, voilà.
D'accord. Mais alors donc, excusez-moi,
ce qu'on appelle sirat al-ijab wal-qaboul. Oui.
Alors, excusez-moi, à cet âge-là c'est un peu particulier parce qu'on a quand même des personnes qui sont qui sont indépendantes, qui sont d'un certain âge, qui n'ont plus besoin vraiment de.
Bah écoute, mon frère, c'est pas toi qui décrète par une logique, c'est les règles religieuses. Tu me demandes les règles religieuses, je dis que même une femme, si elle a 60 ans, elle a besoin de quelqu'un qui la représente. J'ai pas dit, j'appelle pas ça un tuteur, j'appelle ça un représentant. Si on peut s'appeler ça comme ça. Donc quelqu'un doit la marier, c'est pas elle qui se marie comme ça. Il doit avoir quelqu'un, la famille éventuellement. En plus, c'est bien que la famille soit impliquée pour préserver ses droits et défendre ses intérêts. D'accord, tu vois.
De toute façon, Kamel, si vous voulez poursuivre cette conversation, vous pouvez appeler l'imam sur son téléphone.
Hors antenne, au téléphone, en privé, au 06 29 25 35 00. Je répète, 06 29 25 35 00. Ce numéro-là, c'est aussi le numéro que vous pouvez utiliser pour vous inscrire pour la prochaine Umrah qui aura lieu du 20 ou 21 décembre au 1er janvier. Inch'Allah ta'ala, avec ma personne, avec moi comme guide, pour Inch'Allah, une reprise de ce rituel que l'on fait plusieurs fois dans l'année de la Umrah. Voilà, pour toutes vos questions, vous pouvez poser aussi 06, donc 29, 25, 35, 00. Ah oui, il y a aussi autre chose, ceux qui veulent faire une Umrah par délégation. Nous avons des personnes qui sont prêtes à faire la Umrah par délégation pour une personne défunte. Vous voulez qu'on accomplisse une Umrah pour elle, vous pouvez m'appeler donc au numéro que je vous ai donné, 06 29 25 35 00.
Voilà, et après l'émission, bien sûr, Imam Abdelali, on vous retrouve la semaine prochaine, samedi, 10h, 11h, c'est l'Islam au présent sur Beurre FM. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à midi avec Manuel Mariani pour Dessus de Table. À tout de suite.
Retrouvez l'Islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.